Je me suis toujours senti très proche de l'univers de Silent Hill. Pourtant, j'ai pas joué à tant de jeux que ça, de la saga. Le seul que j'ai fait de fond en comble, c'est le troisième. J'y avais joué l'année de sa sortie, en 2003, pendant l'été de la canicule. Je faisais un stage dans le sud de la France, et pendant juillet et août, j'avais habité chez mes grands-parents à Nîmes. Et je me souviens jouer à Silent Hill dans cette atmosphère de torpeur, au premier étage de la baraque, juste à côté du grenier. Il y avait vraiment cette lourdeur hallucinée de l'air vraiment sacré. Ça a accentué l'immersion dans le jeu. Et depuis, en fait, cette atmosphère de rouille ocre du Silent Hill Infernal, je l'ai vraiment associé à cette lourdeur de l'air. Et mon souvenir principal de Silent Hill vient de cet été-là. En fait, donc je jouais une après-midi, j'étais particulièrement immergé dans ce qui se passait. Et il y a un courant d'air, un léger courant d'air, qui a ouvert la porte du grenier derrière moi. La porte du grenier qui avait clac. Et la porte fait juste... Je sais pas comment je me suis démerdé pour faire en sorte que mes cheveux ne deviennent pas intégralement blancs ce jour-là, mais une chose est sûre, j'ai eu une descente d'organes. Et c'est devenu assez symbolique pour moi de Silent Hill, c'est que Silent Hill, c'est une série de jeux, enfin particulièrement les premiers volets, qui ont une atmosphère tellement incroyable que la moindre chose qui pourrait, dans d'autres circonstances, si c'était un petit peu plus appuyé, s'apparenter à un jumpscare, te créer trois ulcères, quoi. Parce que la porte du grenier, elle s'est pas ouverte, bam, en cassant tout, il y a trois fantômes qui sont sortis. Elle a juste fait clic. Voilà, pour moi, Silent Hill, c'est resté ça. Le 2 et le 4, j'avais commencé à y jouer, mais pour des raisons qui m'échappent aujourd'hui, j'avais pas continué. Mais au fil des ans, j'ai continué à me renseigner sur l'univers de Silent Hill, lire sur la question, voir beaucoup de vidéos, notamment aussi sur les volets qui ont été faits après les 4 premiers, donc quand la Team Silent n'était plus... vraiment impliqué et que c'était d'autres studios qui le faisaient. J'ai toujours senti une connexion très personnelle à cet univers de Silent Hill, bien sûr, à son horreur existentielle, mais aussi à sa beauté mortifère et surtout sa profonde, profonde, profonde mélancolie. Et le film de 2006, qui avait été réalisé par Christophe Gans, je l'aime d'amour, ce film. Malgré ses défauts, évident, malgré ce qu'on peut lui reprocher, il y a une atmosphère dans ce film, tu sens que c'est un film qui est fait vraiment par un amoureux transi de l'univers de Silent Hill, mais un amoureux qui a gardé sa lucidité et qui est en pleine possession de ses capacités de cinéaste. Il a une personnalité dingue, ce film, je trouve, dans ses atmosphères et même jusque dans ses cadrages qui sont à la fois définitifs, très pensés, très millimétrés et qui paraissent évidents, mais qui ont toujours cette originalité qui donne vraiment une identité visuelle au film que j'ai pas vraiment retrouvée ailleurs, en tout cas sur le même genre de créneau. Le premier film, c'est une adaptation plus ou moins libre du premier jeu, mais qui ajoute des éléments du 2 et du 3, par-ci par-là, ce qui a fait gueuler des fans d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Et aussi en inventant des trucs, ce qui fait que c'est une œuvre qui est sa propre œuvre. C'est officiellement une adaptation du 1, mais le film est vraiment son propre truc. Silent Hill Révélation, sa suite énorme nanar, fait par des gens qui au contraire ne comprennent rien à Silent Hill et qui ont strictement rien à foutre, ça se sent. Et quand j'ai appris fatalement que... il y a quelques années, Christophe Gans revenait à la franchise et allait réaliser le prochain Silent Hill, qui allait être adapté du deuxième jeu, qui est un des jeux les plus respectés dans tout l'univers du jeu vidéo, que ça soit dans le genre de l'horreur, mais aussi beaucoup plus largement. Forcément, j'étais ultra fébrile, et forcément, il allait être attendu au tournant par toute une corde de fans ultra exigeants et qui eux-mêmes ont un rapport très très personnel à Silent Hill.
You don't know what kind of hell you have to face.
Le film est sorti, il y a quelques jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, et il se fait défoncer, mais défoncer comme rarement j'ai vu un film se faire défoncer. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il se fait laminer, comme un Silent Hill Révélation se ferait laminer, par des fans qui estiment que Christophe Gans n'a rien compris à Silent Hill. Il suffit de voir une interview de Christophe Gans pour observer que non seulement il aime Silent Hill, mais il a compris les tenants et aboutissants, non seulement de la saga, mais aussi en particulier du 2. En l'occurrence, Orphée et Eurydice, une manière de rejouer cette mythologie. Il y a vraiment ce truc bizarre où le film a été fait par l'un d'entre nous, et pourtant, on est passé du premier Silent Hill de 2006, qui avait la réputation d'être une des meilleures adaptations vidéoludiques de l'époque, des années 90-2000. En même temps, sa concurrence, c'était quoi? C'était Mortal Kombat et Mario Bros. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de mérite à monter sur le trône, mais ça n'empêchait pas que c'était un vrai bon film. Et on est passé à un film qui se fait encore plus laminé que Silent Hill Révélation. Pourquoi? En ajoutant à ça le fait que le film a été très mal vendu, J'ai l'impression que ceux qui sont chargés de sa distribution sont en train de le balayer sous le tapis parce que le film a le cul entre deux chaises, ils savent pas trop quoi en faire. Jusqu'à il y a 3 mois, le film était complètement sous le radar et depuis 3 mois, il y a eu genre 2-3 trailers et vraiment le minimum syndical de promo. Donc j'ai l'impression que ceux qui vont le voir, c'est soit des gamers passionnés, soit des gens qui se sont trompés de salle parce que le grand public n'a aucune conscience que ce film existe. Du coup voilà. Cette vidéo va sûrement faire 12 vues, mais je la fais parce que j'aime Silent Hill, bordel. Pourquoi ce film se fait haïr à ce point? Personnellement, donc, je l'ai vu il y a quelques jours. Et verdict, je suis très mitigé sur mon premier visionnage. Mais plus en fait les jours passent et plus le film de travail me revient en tête, et plus je crois que je vais avoir besoin d'un deuxième visionnage pour vraiment mieux comprendre ce que Christophe Gans y a mis. Parce que dans ses choix d'adaptation, il y a quelque chose qui est, au premier abord en tout cas, difficilement compréhensible. Mais il y a quelque chose en plus, ça sent que ça essaye d'émerger. Après, c'est un film qui a eu une production aussi assez chaotique apparemment, et ça a l'air compliqué. Mais bref, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler tout de suite, mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous connaissez? Surfer dans les brumes incertaines du web, aujourd'hui, c'est dangereux. Vol de données, non-respect de l'anonymat, arnaque en ligne, et j'en passe. Surfer sans une protection, à savoir un bon VPN, mais ma parole, vous êtes tout à fait zinzin. Vous avez entendu parler de NordVPN? NordVPN, c'est un outil pratique, efficace et ultra simple qui sécurise votre connexion, et le fait très bien. Résultat, bah vous êtes anonymisé, et ça vous permet de naviguer en toute sécurité sans avoir à redouter les trackers, les pubs invasives ou les sites frauduleux. Vous êtes invisible, et ça fait du bien. Ça s'installe en quelques clics à peine sur ordi, tablette ou téléphone, et je vous jure, ça change la vie. Là, en un seul clic, vous changez votre adresse IP, vous vous connectez à un autre pays, et vous connaissez la musique, ça permet d'avoir accès à toutes sortes de meilleures offres, que ce soit les hôtels, les billets d'avion, etc. Mais aussi, en ce qui nous concerne ici, les catalogues des plateformes de streaming, qui changent d'un pays à l'autre. Genre, vous voulez revoir le premier Silent Hill ? Bah, il est sur le Prime Video italien. Voilà, clic, boum, vous l'avez. Vous voulez des thrillers psychologiques avec une atmosphère assez similaire ? Vous avez le cultissime Perfect Blue sur le HBO Max américain, ou bien le trop oublié The Machinist sur le Mubi grec. Voilà, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est Christian Bale qui joue la brume dans le nouveau Silent Hill. On peut décidément tout faire, ce gars.
Very nice.
Et au passage, tout ça, ça permet aussi de ne pas laisser les algorithmes vous enfermer dans une petite bulle qui vous atrophie la curiosité. Là, en un seul clic, vous changez votre adresse IP, et boum, vous avez accès à un monde merveilleux de choix et de recommandations qui n'ont pas été décidés à votre place. Et ça, particulièrement aujourd'hui, c'est précieux. Donc, avec ce code spécial, bénéficiez de 4 mois gratuits sur les abonnements NordVPN de 2 ans, et pendant les 30 premiers jours, c'est satisfait ou remboursé. Retrouvez toutes les infos en description et dans le commentaire épinglé, et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne vidéo. Donc, Return to Silent Hill suit le personnage de James, qui est un peintre en profonde dépression parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Il l'a perdu au sens où il l'a abandonné, pour des raisons qu'on découvrira plus tard dans le film. Et ça va pas du tout. Et il reçoit une lettre de son ex qui lui demande de la rejoindre à Silent Hill, qui est une ville dans laquelle ils avaient vécu pendant un certain temps. Une ville tout à fait sympa, en apparence. Et quand James arrive à Silent Hill, il se rend compte que la ville est devenue une sorte de ville fantôme, envahie de brume, où il va faire la rencontre de quelques personnages sinistres, mais aussi des créatures de plus en plus inquiétantes et grotesques. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, comme d'habitude, bien sûr, il va y avoir des spoilers. On peut pas vraiment parler de ce film sans le spoiler, parce qu'on va parler de sa narration et ses choix de narration. En même temps, au niveau spoiler, il est basé sur un jeu qui a les mêmes spoilers, un jeu qui date d'il y a 25 ans, donc peut-être qu'il y a prescription. Mais je vais commencer par la forme, déjà. Le truc louable, c'est que Christophe Gans a abordé ce Silent Hill d'une manière qui se veut vraiment différente du premier. Le premier était très, pour reprendre ses termes, opéra baroque, sous influence Dario Argento. Donc ses cadres étaient très pensés, très millimétrés, soit des plans fixes, soit des mouvements très fluides. Celui-là, au contraire, est beaucoup plus chaotique. Filmé quasi intégralement caméra à l'épaule, pour épouser en fait le chaos de ce qui se passe dans le ciboulot de James, parce que tout tourne autour du chaos qu'il y a dans cet esprit, comme on le verra juste après. Il y a des fulgurances à ce niveau-là qui sont assez saisissantes, je trouve. Le côté craspec, viscéral du truc est très bien retranscrit. La première virée dans le Silent Hill cauchemardesque, notamment, est très réussie. Quand James court paniqué et qu'il voit autour de lui des apparitions et tourne la tête, il voit des trucs un peu subreptices, notamment ces créatures qui sont coincées dans une sorte de camisole de chair. Et il y a ce moment où il se retourne vers une de ces créatures, c'est un plan très rapide, mais dans la texture de l'image, je sais pas comment Gans s'est démerdé, mais il y a quelque chose qui est proprement infernal. C'est pas juste dans la manière d'établir une direction artistique, des designs de monstres, c'est vraiment dans cette manière de les filmer et d'imprimer ce grain qui me rappelle en fait ces cauchemars où il y a quelque chose, une sorte de filtre très sinistre entre nous et ce qu'on perçoit. En tout cas, c'est des cauchemars que je fais à certains moments de ma vie où ma vue est diminuée et ça accentue cette sensation de vulnérabilité. Et il a très bien su saisir ça, notamment aussi certaines créatures très réussies, l'araignée avec sa tête qui se retourne. J'ai l'impression que c'est un gros doigt que Gans fait à Silent Hill Révélation en mode t'as essayé de la faire cette créature ? Regarde, je vais te montrer comment on l'a fait. Après, il y a aussi des choses plus étonnantes dans les choix d'effets. À force de vouloir alimenter ce chaos, il y a à certains moments des effets assez tape à l'œil, assez clipesques, qui font un peu cheap. Des effets un petit peu de flash lumineux, mais des flashs lumineux vraiment ajoutés en post-prod. C'est un truc que Gans n'avait pas du tout fait, bien sûr, sur le premier Silent Hill, mais il l'avait un petit peu fait sur le Pacte des Loups. C'est un film que j'aime toujours aujourd'hui, le Pacte des Loups, mais sur certains aspects, notamment là-dessus, il a pas super bien vieilli. Mais en tout cas, dans Return to Silent Hill, par exemple, le premier trailer qui est sorti, il commence par James qui se réveille dans l'eau. C'est un truc qui arrive dans le dernier tiers du film. Et c'est vraiment le truc de... en crachant de l'eau et tout ça. Et littéralement, le trailer s'ouvre avec ce plan, avec un dézoom numérique dégueulasse. Mais vraiment, le dézoom numérique que tu fais dans une vidéo React sur YouTube. Vraiment, juste le... Et je me suis dit, putain, le monteur qui a fait le trailer, il abuse. Pour dynamiser le truc et choper l'attention des gens qui ont un petit peu rien à foutre de Silent Hill, il a vraiment ajouté cet effet-là. C'est pas cool de saloper le travail du réal. Ce plan est tel quel dans le film. C'est pas du tout le monteur du trailer, c'est tel quel dans le film. Et il y a d'autres zooms numériques, des fois, tu te dis, ça n'a pas besoin de ça. Littéralement, le plan de Jem qui se réveille pourrait très bien fonctionner sans dézoom numérique ou quoi que ce soit, avec l'espèce de choc du réveil. Et si tu veux absolument dynamiser le truc, tu fais pas une sorte de dézoom. Ou alors tu zoomes dans l'image, tu fais un plan fixe, un petit peu zoomé, et au moment où il se réveille, tu cuts sur le plan original, un petit peu dézoomé. Ça accentue peut-être le stimulus ou ce que tu essaies de rechercher. Mais ce dézoom, c'est... Pourquoi ? Pourquoi les gars ? Enfin bref. Vraiment, en termes de forme, il y a du très très bon et du... Mais pour en venir à la forme et au travail d'adaptation et pourquoi le film existe de la manière dont il existe aujourd'hui, je pense que le problème principal de Return to Silent Hill, c'est peut-être que le format film n'est pas le bon médium pour adapter Silent Hill 2. Tout simplement. Quand tu adaptes Silent Hill 1, la mécanique est beaucoup plus limpide. Silent Hill 1, c'est un accident de voiture, un père et sa fille, la fille se perd dans Silent Hill et le père cherche sa fille. Donc déjà, tu as un truc beaucoup plus mécanique, beaucoup plus limpide en termes de tout ça, qui permet d'adapter ça de manière beaucoup plus littérale, mais en même temps en se permettant beaucoup plus de liberté autour, parce que le fil directeur est beaucoup plus clair. Et en plus, l'amour filial, l'amour d'un parent pour son enfant, tu le remets pas en question, c'est considéré comme un acquis pour les joueurs slash spectateurs, du coup, il n'y a pas besoin de le développer ou d'amener le joueur dans cette immersion-là. Silent Hill 2, c'est pas du tout le même jeu, et fondé en tout cas sur la même mécanique. C'est un jeu qui demande beaucoup plus à respirer, qui te demande en tant que joueur de beaucoup plus t'immerger dans les tenants et aboutissants de Silent Hill et pourquoi Silent Hill est tel qu'elle est, et surtout qu'il y a une densité thématique, symbolique et tout ça qui te demande vraiment d'accepter, de te faire malmener, d'accepter l'ambiguïté, d'accepter en fait l'errance, autant géographique que mentale. Il y a quelque chose dans Silent Hill 2 qui respire beaucoup plus et qui se trouve tellement à l'étroit dans un film. Le truc, c'est que le paysage audiovisuel a tellement changé en 20 ans. Aujourd'hui, les adaptations de jeux vidéo, c'est plus considéré comme une impossibilité. Au contraire, t'as Fallout, t'as The Last of Us et compagnie, qui sont des séries qui se donnent le temps, l'espace et les moyens et le budget de développer des univers riches. Et l'univers de Silent Hill 2 est d'une richesse au moins aussi importante que ça. Il y a presque un côté anachronique dans ce film, parce que faire un film de Silent Hill 2, j'ai l'impression que c'est presque le choix qu'il fallait faire il y a 15 ans. Dans le contexte actuel, ça semble tellement bizarre. Et du coup, thématiquement, il y a tellement de choses à condenser dedans, que tu dis c'est un pari perdu d'avance, en fait, en termes d'adaptation fidèle. Et c'est pour ça que Gans propose pas une adaptation fidèle, peut-être que parce que c'est pas possible de faire une adaptation fidèle de Silent Hill 2, mais il propose sa propre interprétation de ce qu'est Silent Hill 2, sa propre interprétation de joueur, qui est pas du tout forcément raccord avec les interprétations d'autres joueurs. Et c'est peut-être là que ça coince. En fait, l'histoire de Silent Hill 2, c'est une histoire de culpabilité. C'est la culpabilité de James, qui a la sensation d'avoir abandonné sa femme, alors qu'elle souffrait d'une maladie incurable et qu'elle est morte de cette maladie au bout de 3 ans de souffrance, dans le jeu en tout cas. C'est raconté différemment dans le film, mais ça, c'est vraiment le cœur du récit. Et en fait, Silent Hill devient un espace mental dans lequel James matérialise en fait toute cette culpabilité et cette sensation de vouloir être puni. C'est pour ça que toutes les créatures représentent différentes parties de l'esprit de James et son chaos, dont le fameux Pyramid Head. C'est un personnage de bourreau qui apparaît et qui représente en fait la volonté qu'a James de se faire punir pour ce qu'il a fait. Tu crées ta propre temporalité, ton exploration, les différentes facettes de ces thématiques et de ces manifestations, tu les découvres petit à petit, donc tu peux vraiment explorer beaucoup plus l'ambiguïté des choses et toutes leurs différentes facettes. Quand tu condenses ça sur 1h40, ce qui est impossible, de manière en tout cas qui rende justice à la richesse du matériau de base, comment ça se passe cette condensation ? Bah déjà tu surexpliques, parce que tu fais un film qui est censé communier, on va dire, avec les joueurs, mais qui aussi est censé être accessible pour n'importe qui n'ayant jamais vu un Silent Hill ou ne connaissant pas du tout la franchise. Du coup, t'as ce plan où t'entres dans la pyramide de Pyramid Head, dans son casque, pour qu'on découvre l'œil de James et qu'on voit que oui, c'est bien James qui est sous le truc. C'est... N'entrez pas dans la pyramide de Pyramid Head. C'est comme regarder sous le bonnet d'un schtroumpf. Ça se fait pas. Autre manière de simplifier, James est beaucoup moins ambigu que dans le jeu. Dans le jeu, il y a tout un sous-texte sexuel, sous-texte mais très très présent et très dérangeant, notamment parce que James se blâme lui-même pour la frustration sexuelle qu'il ressentait pendant la maladie de sa femme, et donc les apparitions sont très travaillées aussi dans leur démarche et ce qu'elles font par ça. Là, sur un film de 1h40 où t'es censé quand même ressentir de l'empathie pour le personnage principal, c'est quasiment impossible d'insuffler ça sans braquer les gens et leur enlever cette empathie pour dire « Ah, quel connard ! Vraiment, sa femme meurt, et voilà, c'est à ça qu'il pense !» sans développer la nuance de cette émotion et surtout l'espèce de culpabilité profonde qu'il ressent par rapport à ça. Le fait dans le jeu qu'il ait abandonné sa femme parce que petit à petit il s'est éloigné parce qu'il n'arrivait plus à dealer en fait avec l'arbitraire terrifiant de la maladie de sa femme, qui n'était pas justifié par quoi que ce soit dans le scénario, c'est juste que shit happens. Il y avait quelque chose, une sorte de vide existentiel par rapport à ça qui était quand même une des choses les plus chamboulantes, on va dire, du jeu. Dans le film, ça se mue en « je suis parti parce que tu es en bisbille avec une secte à Silent Hill ». On en fait, en apparence en tout cas, une raison beaucoup plus acceptable directement pour le spectateur de « ah, non, ne la quitte pas », mais en même temps je comprends, parce que bon, tu es en bien ficoté dans cette secte. J'utilise le mot « bisbille », en bien ficoté, je ne sais pas pourquoi. Donc soudainement, tu changes ça. La secte n'existait pas à proprement parler dans le jeu, mais ça a été ajouté dans le film pour créer peut-être un petit peu plus de lore dans le Silent Hill de jour et plus justifier la décision de James. Mais surtout, le changement majeur, c'est que là où dans le jeu, le monde de Silent Hill, de la ville fantôme enfumée, embrumée, était un lieu réel que James arpentait, dans lequel il découvrait des personnages qui sont tout à fait réels et pas juste des projections de son esprit. C'était un monde réel dans lequel il projetait quand même des choses de son esprit, Silent Hill s'en faisait le miroir et l'écho, et générait en fait ces créatures. Du coup, il y avait quelque chose qui était assez ambivalent, où la frontière entre la réalité et ce qui est généré par l'esprit de James était assez floue. Dans le film, le Silent Hill à la fois brumeux et le Silent Hill infernal sont tous les deux juste des pures créations de l'esprit de James. Silent Hill dans le monde réel est une bourgade tout à fait sympa. Et mine de rien, ça change énormément de trucs. Et ça, c'est aussi dû au fait de devoir condenser. Parce que si tu dois encore expliquer aux gens qu'il y a un pan de réel, mais qui n'est pas très réel, mais en même temps, ils fantasment ce pan de réel qui manifeste de l'irréel dans le réel et crée cet univers parallèle qui est complètement fictif, mais en fait pas trop. Tu peux faire ça encore une fois sur une mini-série de 6 épisodes. Dans un film, ça devient compliqué. Du coup, là, le choix a été fait d'en faire un pur espace mental. Et dans la réalité, James, il est interné. Et d'une certaine manière, en faisant ça, Gans revient aussi à la source, une des influences principales de la saga Silent Hill, qui est l'échelle de Jacob. Et il se fait vraiment beaucoup plus proche de ce qu'était l'échelle de Jacob à ce niveau-là, sur juste la matérialisation complètement mentale de ces choses-là. Faire ça, ça donne au film, pour le spectateur un petit peu plus distrait, une manière plus facile de suivre le mystère et ses différentes manières de s'emboîter. Mais le problème, c'est que ça fait entrer le film dans le genre de ce que j'appellerais l'horreur-thérapie. Don't you love me anymore? Je ne sais pas si vous avez vu le film 1408, Chambre 1408 en français, avec John Cusack. Mais voilà, pour moi, c'est ça, l'horreur-thérapie. C'est des films d'horreur entièrement centrés sur les traumas d'un personnage principal qui va matérialiser ces traumas. Tout le film te donne l'impression de suivre la séance de thérapie d'un personnage. Personnellement, généralement, ce genre de démarche, ça me fait profondément chier. Parce qu'en même temps, ça donne un côté logique aux apparitions, développer une sorte de cohérence par rapport à ça. Mais une fois que t'as compris le tenant aboutissant et ce qui est en train de traverser le personnage, t'attends juste que ça passe. Comme tout n'est plus une manifestation d'extérieur, donc quelque chose qui peut être arbitraire, surprenant, t'attends juste que le mec ait fini sa séance de thérapie. Bon après, heureusement, Christophe Gans traite ça avec quelques fulgurances et une manière un petit peu surprenante de traiter son récit à certains moments, même dans la deuxième partie. Donc ça a limité les écueils pour moi et le rapport un petit peu compliqué que j'ai avec l'horreur-thérapie. Mais le fait est que si le Silent Hill surnaturel, iconique, devient en fait un pur espace mental, personnellement ça me dérange. Ça me dérange parce que ça enlève de la substance à un univers dont cette ambiguïté reposait sur le fait que c'était réel jusqu'à un certain point. Ça donne paradoxalement l'impression de ne pas voir le vrai Silent Hill. Mais en même temps, le vrai Silent Hill, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc que Gans a dit en interview, et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a autant de versions de Silent Hill qu'il y a de joueurs et d'expériences de joueurs. C'est une projection mentale du spectateur sur les thèmes et l'ambiguïté qu'on va lui offrir. Il y a vraiment ce côté géométrie variable dans l'univers de Silent Hill qui fait que si tu adaptes Silent Hill, de toute façon, tu vas adapter ton Silent Hill, quoi qu'il arrive. Ça n'empêche pas qu'il y a des versions de Silent Hill personnelles qui sont un peu plus universelles, et un petit peu plus des visions plus partagées de cet univers. Mais dans le cas de Return to Silent Hill, j'ai l'impression que plus qu'une adaptation, en fait c'est une variation personnelle de Gans sur ce qu'a été pour lui Silent Hill 2. Je vois pas un Silent Hill, mais je vois un commentaire sur Silent Hill. Mais dans un monde désormais où l'industrie a appris à parler au fandom d'une certaine manière, en leur offrant une certaine vision de ce qu'est une adaptation fidèle et à quoi elle doit ressembler, adapter Silent Hill 2 de cette manière, c'est complètement anachronique par rapport à ça. Et à la fois, c'est ce que devrait être un film, c'est une proposition. Mais adapter Silent Hill 2 dans ce contexte, de cette manière, tu sais qu'en termes de réception, ça va être un suicide. Du coup, tu fais le film pour le panache, avec ta vision, ton truc, ton machin, mais ça explique pour moi pourquoi le film a une si mauvaise réputation. Déjà le fait que les seuls qui le voient, j'ai l'impression que c'est juste des gamers, et forcément, s'ils ne peuvent plus projeter leur expérience personnelle sur un canevas assez large pour qu'ils puissent vraiment développer ce lien personnel, ils voient en fait le film de Christophe Gans comme il irait une théorie sur un forum, sauf que là, la théorie sur le forum, on lui a donné 30 millions de dollars, et c'est établi comme canon. Les gens n'acceptent pas ça. On est au cœur d'un truc vraiment particulier sur le rapport au fandom aujourd'hui. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler en fait du travail d'adaptation. Je parle beaucoup du jeu. Mais c'est pas parce qu'en tant que spectateur, j'attendais une certaine adaptation du jeu. Je mets l'accent vraiment sur ce travail d'adaptation parce qu'il est au cœur, il est au centre de pourquoi le film, conçu comme ça, pensé comme ça, quelles que soient ses qualités d'exécution, même avec une fausse barbe qui soit moins dégueulasse, il ne pouvait que se prendre un mur. Mais le problème principal que j'ai eu avec ce film, c'est qu'à aucun moment je n'ai cru à la romance entre James et Mary, qui est censée être le cœur du film et ce qui va te faire te sentir d'une certaine manière par rapport à l'extrémité en fait de la folie dans laquelle ça plonge James. À ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi un problème de casting. Très clairement, enfin, Jeremy Irvine qui joue James, je suis sûr que c'est un acteur qui est très compétent à côté de ça, mais son visage ne raconte pas ce que le visage de James est censé raconter. Après, dans le jeu, apparemment, c'est un personnage qui a 29 ans. Du coup, c'est pas déconnant qu'il ait ce côté un petit peu juvénile au départ, mais Jeremy Irvine qui joue James, c'est un peu comme si Aragorn avait été interprété par Stuart Townsend, qui était censé être l'acteur à la base, censé jouer Aragorn, et que Peter Jackson, in extremis, a viré parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, le visage de Stuart Townsend ne projetait pas ce que Aragorn était censé projeter. Son visage ne racontait pas l'expérience d'un descendant des Numénoréens de 80 piges. Et là, parce que traverse James la lourdeur de cette culpabilité, le stress et la maturité qui te vieillissent prématurément, c'est quelque chose que tu pouvais même dans le look du personnage dans sa personnalité dans le jeu que tu pouvais ressentir. Là, la seule différence que tu vois entre le James de l'âge d'or quand il était avec Marie et l'autre, c'est qu'il est fringué un tout petit peu moins rock. Un autre truc qui est changé par rapport au jeu, et pourquoi pas à la base, mais en l'occurrence là je comprends pas trop pourquoi, c'est que dans le jeu, la maladie de Marie a duré 3 ans, James et Marie étaient mariés, donc en fait déjà t'as une sensation de temps long dans leur relation qui est accentuée ensuite par le temps long que tu vas passer dans le jeu, à errer et à vraiment te macérer dans ce qu'est l'esprit de James et ce qui a été leur relation. Dans le film, ils ont été ensemble quoi, quelques mois à tout péter? Mais pourquoi? Donc à ce niveau-là, le film ne se rend pas service. Parce que non seulement c'est difficile de développer la maturité, le background avec ton acteur principal, mais en plus, tu diminues l'impact ressenti de cette relation. Après, le fait de faire de Silent Hill un pur espace mental, ça crée les écueils dont j'ai parlé un petit peu avant. Mais ça permet aussi de créer un flou qui n'est pas inintéressant. Pas un flou sur ce qui est réel ou non à Silent Hill, parce que tout est un espace mental. À part dans le Silent Hill réel ensoleillé, mais un flou sur la réalité des souvenirs de James et sa manière de reconstruire ou non les souvenirs, puisque tout est une projection mentale, même les flashbacks, jusqu'à quel point on peut s'y fier. Ça permet donc de découvrir des niveaux de lecture que Gans a de toute évidence mis dans le film, mais aussi d'en inventer. Quand tu as envie de justifier tout ce que tu as envie de justifier, c'est ce qui est pratique en fait avec l'espace mental. Et du coup, il y a toutes sortes de questions qui arrivent. Cette sous-intrigue bizarre avec la secte dont le film n'avait pas besoin, à part pour justifier que James part et quitte Marie. Peut-être que cette secte n'a jamais existé. On ne la connaît qu'à travers les souvenirs de James, mais peut-être qu'il a juste dans son esprit qui a vrillé. Il a créé cette secte pour donner quelque part un sens à la maladie de Marie. L'arbitraire total d'une maladie, il a terrifiant existentiellement, c'était trop pour son esprit, et il a eu besoin de créer cette secte qui lui a en fait filé un truc, qui l'a fait tomber malade, et... diminuer un petit peu le niveau de culpabilité, parce que dans ses souvenirs, maintenant, il s'est pas juste enfui par peur et par trop plein de responsabilités, mais parce qu'en fait, il y avait une secte, il y avait tout un enjeu autour de ça, et que moralement, c'était plus justifiable pour lui de partir. Est-ce que James aussi a minimisé sa relation avec sa femme? Là, j'ai parlé du fait qu'on passe d'une relation de plusieurs années, dont 3 années de maladie, et ils sont mariés dans le jeu, à une relation de quelques mois, un an je crois, à tout péter. James continue à te dire à quel point c'était intense, mais tu peux pas le ressentir facilement en tout cas. Peut-être qu'il a minimisé encore une fois cette relation en faisant quelque chose qui était moins lourd à accepter. Donc pas un mariage, pas une maladie qui s'est étendue sur le temps long, mais quelque chose qui est beaucoup plus compressé. Mais malgré le fait qu'il ait construit cette fantaisie, ses séquelles émotionnelles et morales à l'intérieur, elles restent exactement les mêmes, il peut pas y échapper. Et l'inconscient, qui est la grande affaire de Silent Hill 2, il déborde. Est-ce que le fait même que Marie demande à James de mettre fin à ses jours, est-ce que c'est pas un souvenir reconstruit? Quand est-ce que James a reçu la lettre? Est-ce qu'il l'a vraiment reçue de cette manière-là? Enfin, même ça, ça devient super flou. Est-ce que cette fausse barbe et cette perruque peroxydée tout droit sortie d'une Japan Expo, est-ce que c'est bien sérieux? Voilà en tout cas ce que ce Silent Hill m'a évoqué lors de mon premier visionnage. Ne croyez pas, encore une fois, toutes les vagues de haine que vous pouvez voir sur Internet, sur parole. Faites-vous votre propre opinion, il y a toujours quelque chose d'un peu différent derrière, de beaucoup plus nuancé. Le problème, c'est comme si ce film avait été téléporté d'il y a 15 ans en arrière, mais dans une timeline alternative où il aurait été fait il y a 15 ans, qui était téléporté en 2026 et qui regardait tout le monde en disant...
How do you do, fellow kids?
What?
Après, Christophe Gans, si on voit des interviews qu'il a données en 2025, donc en amont de la promo, il a laissé entendre à demi-mot, et même parfois pas du tout à demi-mot, qu'il y a eu des problèmes de prod. Notamment, il a dit que le film était censé être prêt en 2024, mais qu'à cause d'un des producteurs exécutifs, en fait, le film a été repoussé d'un an. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film n'a pas du tout été aidé par sa promo. Le sortir en tant qu'adaptation du jeu visionnaire Silent Hill 2, c'était suicidaire. Je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu le vendre en tant qu'une réimagination de Silent Hill 2, ou Christophe Gans' Silent Hill 2. Ou, comme le premier, en faire ce qu'il est censé être, c'est-à-dire une réinvention, finalement, de ce jeu, et un film qui est son propre film, donc qui emprunte beaucoup aux deux, mais qui propose un truc un peu différent. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.